Radio Prague, les informations.
Bonjour, voici les titres. Forte pluie et alerte aux inondations en Moravie-Silésie. Selon un sondage, une majorité de Tchèques serait contre l'aide à la Grèce et au championnat du monde de hockey sur glace, la Tchéquie, défaite par la Suisse. Comme annoncé en titre, l'Institut de météorologie tchèque a annoncé de fortes pluies jusqu'à mardi prochain sur les régions de Moravie et Moravie-Silésie. Progressivement, ces fortes pluies atteindront la Bohême de l'Est. Les météorologues ont indiqué que l'augmentation du niveau des rivières pourrait causer des inondations localement. Selon les prévisions, il pourrait tomber entre 20 et 90 mm de pluie dans certaines zones et même jusqu'à 150 mm sur les monts Beseki. L'alerte aux inondations couvre les régions de Moravie-Silésie et de Zlín jusqu'à mardi. Une majorité de Tchèques ne cautionne pas l'aide financière à la Grèce accordée par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Plus de la moitié des Tchèques pensent d'ailleurs que cette aide ne permettra pas à ce pays d'éviter la faillite financière. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'Institut de sondage SANEP. Plus des trois quarts des personnes interrogées pensent également que la crise que subit actuellement la Grèce va avoir un impact sur l'économie des autres pays de l'Union et notamment sur la République tchèque. Une journée à la mémoire des victimes du camp de concentration de Terezín s'est tenue ce dimanche. Les orateurs présents ont insisté sur le danger que représentent les montées du néonazisme et de l'extrémisme de droite en République tchèque. Environ 1000 personnes étaient présentes pour rendre hommage aux victimes du ghetto et de la prison de la Gestapo de Terezín. Il s'agissait de la 64e cérémonie commémorative. Et autre commémoration, une cérémonie en hommage aux victimes du communisme s'est tenue ce dimanche au crématorium de Motol. Était présente plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Éducation nationale, Miroslava Koptsova, ainsi que le nouvel archevêque de Prague, Dominik Duka. Ils ont exhorté les témoins de cette époque à en informer les nouvelles générations. Dans la fosse commune de Motol ont été enterrés des dizaines de prisonniers politiques morts en prison ou dans les camps de travail et dont les corps n'ont jamais été remis à leur famille. En sport, samedi soir, la République tchèque s'est inclinée devant la Suisse à Mannheim, en Allemagne, qui accueille les championnats du monde de hockey sur glace. Menés 2-0 à l'issue du premier tiers-temps, les Tchèques ont réussi à recoller au score dans le deuxième tiers-temps, mais ça n'a pas été suffisant. Score final 3-2 pour la Suisse. Une défaite qui complique le chemin des Tchèques vers les play-offs. Lundi, la République tchèque rencontrera la Lettonie avant le Canada, mardi. Et en football, sachez que le Sparta Prague a décroché samedi le titre de champion de République tchèque. Météo dimanche, jour des prémisoles, le ciel reste couvert sur l'ensemble du territoire avec des précipitations localement. Les températures diurnes se situent entre 11 et 15 degrés. Voilà, c'était le bulletin d'information qu'avait le plaisir de vous présenter Anne-Claire Veluire. Tout de suite, Culture sans frontières avec Anna Kubishta qui vous propose, vous le reconnaîtrez, une rediffusion d'une de ses émissions précédentes. Bonne écoute à toutes et à tous. Ah,
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission culturelle. Une émission culturelle qui ne sera pas consacrée à 1989. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces commémorations ces derniers temps, mais je vous propose aujourd'hui de parler peinture. Jesse Little est peintre, c'est du haut de son atelier perché sur les toits de Žižkov à Prague qu'il donne naissance à ses toiles. Des toiles qui évoquent tour à tour des vitraux et on hésite parfois en les regardant à se dire, ne serait-ce pas un miroir de la réalité brisé en mille morceaux, recomposé, mais où sont encore visibles les brisures, les failles, les cicatrices. C'est de cela et de bien d'autres choses encore qu'il sera question dans l'émission de cette semaine. Jesse Little est né en 1969 à New York, mais il a passé une grande partie de son enfance en France, où son père, l'écrivain Robert Little, s'est installé avec sa famille dans les années 70. D'où le français parfait de Jesse Little, qui maîtrise également le tchèque. Débarqué à Prague en interrail il y a une quinzaine d'années, il a fini par s'y installer définitivement après quelques allers-retours hésitants. The sun goes down. Alors je suis allée à la rencontre de Jesse Little dans son atelier et j'ai commencé par lui demander s'il avait toujours eu un crayon ou un pinceau dans la main.
Je suis sûr que mes parents diraient autre chose, bien sûr. Ils commenceraient à dire que j'étais toujours en train de dessiner, blablabla. Non, moi j'ai toujours aimé dessiner, mais... Quand je retrouve mes vieux dessins de, pas d'enfants, parce qu'eux sont géniaux, bien sûr, mais d'adolescents, disons, c'est bien sûr, c'est de la daube comme tout le monde. Mais j'étais à l'université aux États-Unis et j'ai fait un an entre temps, ma troisième année, je suis allé aux Beaux-Arts à Paris. Par hasard, mais pas par hasard, bien sûr, parce que ça m'intéressait toujours. Et voilà, et c'est cette année-là qui m'a complètement détruit, bien sûr. N'ayant jamais peint de ma vie, c'était en cours de morpho au Beaux-Arts, justement, où c'était un amphithéâtre énorme, où il y avait des mecs devant moi qui dessinaient à main libre des trucs mais incroyables, des chevaux, enfin, hallucinants. Moi, j'étais pas capable de tenir un crayon, presque. Et puis, il a commencé à montrer un beau jour des diapos de Egon Schiele. Et voilà, c'était fini pour moi. Je suis devenu peintre sans avoir jamais touché un pinceau de ma vie, sauf enfant. Donc je suis rentré aux États-Unis, tout excité. J'ai commencé à prendre des cours de peinture à l'université en disant « je veux être peintre ». C'était génial, ça aussi. Mon premier painting class à l'université, où tout le monde arrivait avec la première peinture de l'année pour la critique. Et moi, j'avais... Parce que tout d'un coup, j'étais peintre, bien sûr. Il fallait... Et la prof était géniale, parce que bien sûr, c'était la prof qui est devenue ma prof pendant toute cette année, une des trois qui nous ont formés, qui n'a rien dit, qui a fait toutes les autres toiles pendant ce cours de critique. Et à la fin, et moi j'attendais, genre, très orgueilleux, elle m'a complètement cassé en 36 morceaux. C'était génial. On en reparlait pendant des années et des années, parce que, à mon avis, elle a dû comprendre très vite. Donc elle savait que certains parmi les étudiants étaient partis pour faire ça. Donc elle n'allait pas non plus être très très, disons, gentille, comme elle pourrait l'être avec les autres. Et j'avoue que pendant des années, ça m'est resté, mais gentiment, pas de mauvais feeling.
Comme quoi, il y a quand même des moments déterminants. Alors ça et Schiele auparavant, bon, c'est une transition toute trouvée, puisque j'allais te dire que tes toiles me font beaucoup penser, en tout cas certaines, évidemment, à Schiele, ne serait-ce que par un espèce de mélange à la fois d'expressionnisme et de cubisme à la fois. C'est ce qu'on retrouve en tout cas chez Schiele.
Je prends ça comme un grand compliment, bien sûr. Schiele, c'est tout dans sa ligne, et sa ligne est incomparable.
Même parfois aussi, j'allais dire, il y a quelques-uns qui m'ont fait penser aussi, même à Klimt, je pensais, notamment à tes tableaux aquatiques, ceux où on voit des femmes dans l'eau, en fait. Ça me fait penser à des espèces de nymphes, en fait, qu'on voit, par exemple, dans certains tableaux Klimt, qui était quand même le maître de Schiele, on le sait.
Le maître de Schiele, mais pas vraiment. En fait, il était le précurseur de Schiele, bien sûr. Tu sais ce qu'il a dit à Schiele quand Schiele, à 17 ans, est allé le voir avec son portfolio de dessins. Il a dit « Maître, am I any good ? Est-ce que je suis bon ?» Et Klimt a regardé ses dessins et il a dit « beaucoup trop bon ». Avec apparemment un dégoût presque. Parce qu'il était Schiele depuis l'âge de 4 ans. Il y a des dessins qu'il a fait à 4 ans. Il était incroyable. Je crois que parmi tous, autant les Picasso, les Klimt, les Giacometti sont tous incroyables et ont tous leur sauce. Il n'y en a pas un qui a une ligne comme celle de Schiele, qui a une écriture, c'est pas du travail de dessin, que ce soit académique ou pas académique. Par exemple, j'ai vu des dessins de Klimt au musée à New York, le Nauer Museum, où il y a plein de dessins qui sont des dessins qu'il a fait pour l'étoile qu'on connaît. Et il y en a qui sont assez nuls. C'est des dessins où il cherche sa forme, il cherche son truc, et tu vois toutes les fautes qu'il fait, et bien sûr, il les a vues lui aussi, mais alors que Schiele, bien sûr, apparemment, il foutait tout à la poubelle, tout ce qui n'était pas parfait, ça on savait aussi, mais en même temps, à mon avis, c'était différent, c'était pas des trucs bancals, ça marchait pas, c'est juste, il avait une écriture, c'était pas un mec qui recopiait des formes, des angles, des machins. Il y avait vraiment une sorte de fluidité, d'une écriture. Il y a des moments dans ses dessins où il y a rien de juste, mais entre les lignes qui se croisent, c'est juste, c'est-à-dire que tout reste en mouvement, et c'est assez incroyable.
Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi finalement que tu fais de la peinture figurative. J'allais dire, parfois on se dit... Mon Dieu, pendant des années, on s'est imaginé que la peinture figurative était ringard, qu'il n'y avait que l'abstrait qui existait. Ce en quoi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui sont sans doute d'accord avec moi.
Pas d'accord. C'est pas la figure humaine, mais c'est le sujet. Je ne suis pas vraiment capable de faire ça à partir de, de rien, on va dire, de me l'imaginer. J'ai pas envie, en plus, peut-être par rapport à ce que j'ai appris, mais peut-être par rapport à ce dont j'ai envie. L'art abstrait, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, bien sûr. Je fais une toile abstraite,
tu en as quand même quelques-unes.
J'en ai quelques-unes. C'est une sorte d'exercice. J'en fais une ou deux, enfin une plutôt, par an, comme ça pour voir. Pour voir ce que ça donne et ce que ça fait. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Elles me plaisent puisqu'elles ont survécu à mon autocensure, bien sûr, mais c'est tellement arbitraire. C'est tellement arbitraire dans le sens où c'est n'importe quoi. Et ça reste n'importe quoi. Alors que pour moi, ce qui est intéressant dans ce qui est figuratif, encore quote unquote, c'est-à-dire la forme, que ce soit une personne, une chose, un objet,
un paysage,
un endroit, n'importe quoi, c'est ce qui est dans la forme.
Alors, il y a une caractéristique, notamment dans tes toiles, hein, c'est pas toutes, mais une grande majorité. Il y a donc cette espèce de manière de quadriller, comme s'il y avait un espèce de tamis, un espèce de filtre de ce que tu représentes. Alors, tout est un peu prétexte à ce quadrillage, ça peut être des mâts, des pylônes, des arbres, etc. Est-ce que c'est une manière...
Tu me fais remarquer.
Oui, je suis très observatrice. Est-ce que c'est une manière d'ordonner ou de désordonner le monde?
Ah, très bonne ta question. Encore, je pourrais essayer de répéter ce qu'ont dit les autres. Il y a une très bonne copine qui a écrit une monographie dans mon seul catalogue, en fait, qui avait beaucoup de choses à dire là-dessus, que j'ai trouvé intéressante. Je sais pas si ça ordonne ou si ça désordonne. Je serais obligé d'essayer de comprendre si je trouve le monde désordonné et que je suis en train de l'ordonner, ou plutôt le contraire. C'est une affaire complexe, ou ça. Mais en même temps, oui, je suis ordonné dans certaines choses, c'est-à-dire qu'il me faut une sorte de, comment dire en français, la chenille, un échafaudage. C'est ça, c'est un échafaudage pour essayer de comprendre les trucs qui restent bien sûr en mouvement, que ce soit une photo ou un modèle, une personne, un arbre dans le vent, ça ne s'arrête jamais de bouger, même si c'est en photo. Surtout avec la peinture. En dessin, c'est différent, bien sûr, parce que tu as une ligne, mais en peinture, qui reste une matière comme une sculpture, tu peux pas le...
Il faut justement dire les choses.
Si j'avais pu les dire, je serais peut-être écrivain, non?
C'était une de mes questions, d'ailleurs, celle-là. Ça t'a jamais tenté d'écrire?
Sûrement. J'ai toujours dit dans 20 ans j'écrirai mon livre, mais voilà, c'est 20 ans après, j'ai toujours pas vraiment envie. C'est une de mes réponses quand je rencontre des gens qui me demandent ce que je fais, que je dis que je suis peintre, et qui me disent toujours, bien sûr, qu'est-ce que tu fais comme peinture? Au fil des années, j'en ai eu marre, et j'ai donc découvert cette super réponse. Si j'étais capable de te le dire, je serais écrivain, mon ami. Et bien sûr, avec un père écrivain, un frère écrivain, c'était peut-être pas la bonne réponse non plus, mais...
Il va falloir quand même expliquer pour les auditeurs, pour le coup, que ton père, c'est l'écrivain Robert Little, qui est le grand nom du roman d'espionnage américain. Ton frère, c'est Jonathan Little, qui est quand même le prix Goncourt 2006 en France, pour Les Bienveillantes, voilà, qui est sorti récemment en plus en tchèque. Est-ce que tu es un lecteur critique ou admiratif des œuvres de...
Admiratif des deux, c'est sûr. J'adore la lecture. Je trouve ça très marrant, d'un côté, de parler de tous les deux en même temps, parce que c'était toujours mon père l'écrivain, bien sûr. Enfin, j'ai toujours adoré la plupart des livres de mon père. Je suis sûr que je serais un peu plus critique de certains, mais en général, c'est non seulement un écrivain fantastique du côté de la matière, craftsman.
Un artisan.
Mais ses livres sont absolument, enfin, à mon avis, bien sûr, géniaux. Et mon frère, bien sûr, qui concourt, tout ça. Mais oui, j'ai lu Les Bienveillantes aussi. Ça m'a pris 5 semaines de travail.
Acharné.
Parce que je lis moins en français, bien sûr, donc j'ai moins l'habitude. Et bien sûr, qu'est-ce que je peux dire? C'est un grand livre.
Ton père vient de sortir un livre qui s'appelle L'Hirondelle avant l'orage,
ouais,
qui en anglais s'appelle The Stalin Epigram,
ouais,
et qui est sorti alors en France, je crois, en mars 2009. C'est un tableau de toi qui illustre l'édition américaine. Alors ouais, déjà, c'est plutôt sympathique. Pourquoi pas l'édition française?
C'était une idée de mon père. C'est une toile qui appartient à mon père, que je lui ai offert pour son 60e anniversaire, je crois, qu'il adore, et c'était son idée. Mais bien sûr, en même temps, quand il publie un livre, la maison d'édition, les maisons d'édition restent les derniers juges de... C'est à eux de vendre leurs produits. Donc il m'a demandé si je serais d'accord pour que lui demande de son côté, parce qu'il avait beaucoup envie, il trouvait que ça Cette toile, apparemment, répondait au thème de son livre. Et donc, il a demandé, je crois qu'il a commencé avec les Américains, parce que c'était les premiers. Incroyable, mais vrai, ils ont dit oui. Donc voilà, ils ont fait ça, ils l'ont fait très bien, justement. Lui aussi a adoré, et il l'a proposé aux Français, aux Allemands, je crois. Mais il ne propose, il ne demande pas plus. Et quand ils disent non, bien sûr, il ne va pas insister.
Comment est-ce qu'on vit en tant que peintre? Comment est-ce qu'on vend ces toiles?
On vit à Prague, où on peut vivre pendant une semaine en bouffant au resto en 1993 et en buvant à l'œil et en offrant à tous ses copains pour moins de 50 dollars.
Non, mais je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour un petit peu se faire, faire un peu son trou? Quels sont un peu les débouchés?
Aucune idée, franchement.
C'est du bouche à oreille?
Ce n'est que du bouche à oreille. J'ai l'impression de pas même savoir. J'ai eu beaucoup de chance, bien sûr. Tant bien que mal, j'arrive à en vivre. Mais ça fait partie du truc. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de savoir comment j'ai fait, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, sauf d'être là et de faire mon truc. J'ai essayé, bien sûr, au début de taper le pavé, comme on dit en anglais, de faire des galeries avec son book, machin. Très rapidement, c'est pas une question d'avoir été découragé, mais plus question de temps. Enfin, soit on est businessman et soit on est PR man, soit on fait de la peinture. Et à la fin, c'était, j'en avais marre, quoi, de faire le tour de, apparemment, ce qu'il faut faire en tant que peintre, de faire le tour des galeries, tout ça. Alors que, en restant à la maison et en faisant son boulot, ça vient une fois tous les 36 du mois, mais ça vient.
Cette semaine était donc le peintre américain Jesse Little. Évidemment, si vous voulez voir à quoi ressemblent ses toiles, je vous recommande vivement d'aller sur son site internet www.nosuchpaintings.com. Évidemment, tous ces renseignements, vous pouvez également les retrouver sur notre site internet au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque? Voyagez donc. Jarka Gregorova.
La région de la charmante ville de Novi Tchin, située dans le nord de la Moravie, est un endroit idéal pour faire des excursions dans les monts de Dra, les monts de Beskidi Morave Silésienne ou dans la réserve naturelle Trojačka. Novi Tchin, fondée probablement au XIVe siècle, est renommée par la fabrication de luxueux chapeaux et de coiffures diverses de qualité supérieure. Le grand essor de la ville commence au XVIe siècle grâce au brassage, au débit de la bière et surtout à la fabrication du drap. La production manuelle des chapeaux date du XVIIe siècle, mais ce fut en 1799 que Jan Nepomuk Hückel fonde une vraie manufacture. À cette époque, déjà, les chapeaux étaient exportés à l'étranger. La production mécanisée a été introduite en 1865, ce qui entraîna la construction d'une grande usine centrée sur la production des chapeaux en feutre de poil 2 ans plus tard. Après la prise du pouvoir par les communistes en 1948, l'usine reprise par les fils de Jan Nepomuk Hückel devient l'entreprise nationale Tonak en propriété de l'État. Puis après la révolution de velours, Tonak prend le statut de société par action. En 2001, Tonak a racheté la division de coiffure de Fesco Strakonice. Actuellement, le siège de la société Tonak se trouve à Novi Tchin avec une succursale à Strakonice. La société fait partie des producteurs les plus importants de production de coiffure au monde. Tonak exporte ses produits dans une cinquantaine de pays du monde entier, dont les clients les plus importants sont les États-Unis, l'Allemagne et les pays de l'ex-Union soviétique, en particulier la Russie. L'histoire de l'entreprise de Strakonice, située en Bohême du Sud, remonte à 500 ans en arrière. En 1812, les frères Fürth fondèrent une section pour la production de chéchia et de coiffure. En 1899, l'entreprise de Wolf Fürth s'est regroupée avec toutes les autres entreprises en Autriche-Hongrie au sein de la société par action des entreprises autrichiennes, dont le siège se trouvait à Vienne. En 1918, le siège fut déplacé à Strakonice, où la production de chéchia existe toujours. L'entreprise de Novichine est centrée non seulement sur la production des modèles de magnifiques chapeaux en chanvre de sisal importés, mais aussi de coiffures diverses en matière naturelle, laine et coton, des bonnets divers, des chapeaux en feutre de poil et des produits semi-finis. Le procédé de fabrication des chapeaux en feutre de poil est assez compliqué et exige une excellente maîtrise du métier. Pour un chapeau en feutre de poil, il faut entre 4 à 5 fourrures de lapin, et comme l'a expliqué la représentante de la société Tonac, Madame Sergeya Vanichkova, il faut d'abord couper les poils pour les séparer de la peau, les nettoyer et tremper pour altérer leur structure. Par la suite, les poils de lapin sont soufflés, séchés, foulés et tendus sur un tambour, ce qui donne à la matière la forme du chapeau. Mais ce n'est qu'un bref résumé du procédé compliqué de production. La succursale de Strakonice produit des bonnets divers, des bérets militaires civils, des petits chapeaux pour les hôtesses de l'air, des chéchias et produit également du filet. Les élégants chapeaux Tonac ont été présentés avec succès au défilé organisé dans le cadre du British Racing Day de la LBBB Bank, qui a eu lieu le 25 avril dernier à l'hippodrome de Velká Ruchle. Dans le complexe de l'hippodrome, il n'y avait pas uniquement des chapeaux en démonstration et en vente au stand, mais aussi par exemple des lits savoir beds. Les chapeaux élégants vont de pair avec les courses hippiques. Mais quel est le rapport entre un lit et des courses de chevaux? La réponse est simple. L'intérieur du matelas est entre autres composé de crins de chevaux, d'où l'originalité de ces lits au prix élevé. Plus de détails sur les lits savoir beds, dont la tradition remonte à presque 100 ans, Madame Šárka Wagnerová, représentante exclusive en République tchèque. On l'écoute.
La dénomination des lits savoir beds revient au nom de l'hôtel Savoie à Londres, qui était le premier hôtel au monde à posséder un ascenseur, sa propre boulangerie, produisait de l'électricité, possédait des vignobles où on cultivait du vin destiné à la consommation des clients. Savoie possédait également une usine de production de lits qui a commencé déjà en 1905 et continue jusqu'à présent. Les lits sont produits à base de matières naturelles, coton, laine, lin, et ce qui est exceptionnel, c'est le rembourrage par les crins de chevaux qui aspirent l'humidité du matelas supérieur. L'air circule à travers le matelas et le lit respire donc même s'il en transpire pendant la nuit. Se réveille dans un lit sec. La garantie des lits est de 25 ans et la viabilité entre 30 à 40 années. Et ce qui est intéressant, c'est que le client peut lui-même choisir les composants et la tapisserie du lit.
Le stand de la biocosmétique française, si proche de la nature, était non moins intéressant. D'ailleurs, Aver est le premier magasin bio pour les femmes en République tchèque. C'est la directrice exécutive d'Aver, Monika Hovorka, qui va nous dire quelques mots sur les produits présentés. Monika Hovorka.
J'ai commencé à travailler avec les produits français de la cosmétique bio. Finalement, ce sont trois marques que je représente, trois marques françaises et une marque italienne. Il y a une marque française à Alterac. C'est une cosmétique où est 90% ingrédients bio. Après, c'est une petite gamme pour les bébés. C'est la première cosmétique bio et fair trade en France. Ça s'appelle Gaïane. Il y a une gamme, c'est la marque Olive. C'est pour les femmes et pour... pour les femmes, pour le corps et pour le visage. Et après, c'est une marque italienne. C'est la cosmétique... décoratif, on peut dire, aussi bio, et après les parfums naturels, ou les eaux de toilette naturelles.
Et donc tous ces produits, ce sont des produits absolument naturels.
Finalement, tous les produits sont naturels, en plus ils sont bio, parce qu'il faut se dire que des produits naturels, il y a une chose, et après, s'ils sont certifiés bio, ça veut dire qu'il y a des ingrédients qui sont encore bio, certifiés bio.
L'organisatrice du 9e anniversaire de la journée hippique LBBB et British Racing Day à l'hippodrome de Velká Ruchle, une course traditionnelle du projet Hellas New Encounters Club, Helena Korotova, a été très satisfaite du déroulement de la journée hippique. Helena Korotova.
Cette journée a été très réussie car le soleil brillait et nous avons eu l'occasion d'assister à 8 courses passionnantes. Sous le vendredi saint, notre Ladies Club a soutenu un concert de Pâques qui a eu lieu à la basilique Saint-Jacques sous la baguette de Monsieur Zich. Les auditeurs ont pu entendre Stabat Mater chanté par le chœur de Saint-Jacob, Vous et Sudop. C'était une belle manifestation car à part 3 ensembles mixtes, il y a eu un grand orchestre qui jouait. Notre prochaine activité sera le 11e anniversaire du club de dames Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club. Et à cette occasion, nous avons invité Madame Barbora Tachetsi.
Le Grand Prix de LBBV Bank CZ a été remporté par Rabbit King, monté par le jockey Jiří Senec. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos idées, remarques et suggestions.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.